Bienvenue sur Bohemia Design and Business, le podcast qui t'aide à construire une image d'entreprise moderne et magnétique. Moi, c'est Amandine, créative intuitive et digital designer. Je t'accompagne dans la création de ton identité visuelle, de ton site web et de l'image que tu véhiculeras sur le web. Avec ce podcast, je te partage mes conseils, mes astuces et toute mon expertise afin de t'aider à créer un design d'entreprise stratégique. Hello, bienvenue dans ce podcast numéro 5, 6 astuces pour créer des visuels Instagram impactants. Dans ce podcast, je vais te donner 6 astuces, 6 conseils précieux pour que tes visuels Instagram soient plus impactants. Vous êtes ultra nombreuses ces derniers temps à me demander comment en fait vous pourriez pimper un petit peu plus votre Instagram en termes d'emballage cadeau, en termes d'univers graphique, mais surtout comment vous pourriez booster vos visuels pour avoir un petit peu plus d'audience et pour avoir un peu plus d'engagement. Donc en effet, la créativité, le sens de l'esthétisme et le fait de savoir attirer l'œil, c'est pas une mince affaire en termes de graphisme et sur les réseaux sociaux encore moins, parce que surtout c'est un métier. Donc dans ce podcast, je ne vais pas t'apprendre à être graphiste ni web designer, mais je vais juste attirer ton attention sur certains points indispensables sur lesquels tu vas pouvoir à l'avenir être un petit peu plus vigilante pour pimper tout ça. Le premier élément dont je vais te parler, c'est ton message. Le message que tu veux faire passer lorsque tu publies quelque chose sur Instagram doit être compris dans les premières secondes. Ça, c'est vraiment hyper important. Sur Instagram, en ce moment, c'est un petit peu la guerre. Il y a de plus en plus de contenu publié, la concurrence est forte. En tant qu'être humain, notre manière de consommer de l'information a vraiment évolué ces dernières années. Et de ce fait, on a besoin dans les premières secondes d'être captivé et surtout de capter le message du visuel. Il faut pour cela que tu te penches sur la hiérarchisation. C'est vraiment ça qui va être important, le fait de hiérarchiser les informations. La hiérarchie visuelle, c'est le fait de mettre en avant les éléments les plus importants et percutants en jouant sur la mise en forme de ceux-ci. Donc en graphisme, en design, c'est vraiment une base essentielle pour guider le regard de ton lecteur vers les informations essentielles pour ensuite se laisser glisser vers les autres éléments qu'on appellera les éléments secondaires. Ton message principal, il doit être ultra clair et valorisé grâce à tous les éléments que tu as à ta disposition. Donc pour les valoriser et pour les hiérarchiser, ces messages en fait, ces informations, tu vas avoir le choix de la typographie, donc les polices d'écriture. Tu vas pouvoir jouer avec les couleurs à ta disposition dans ta charte graphique. Tu vas pouvoir également jouer sur la taille de la typographie et des éléments, de la graisse. La graisse des textes, c'est lorsqu'on met un élément en gras ou en fin ou en semi-gras. Donc ça va donner plus ou moins de poids, hein, comme son nom l'indique, la graisse, et d'importance à tes éléments. Et tu vas pouvoir également jouer aussi sur les animations qui sont à ta disposition selon ce que tu utilises comme outil. Et tu vas pouvoir surligner. Donc ça se fait pas mal dans le design actuellement de venir surligner comme on aurait un stabilo, par exemple, à l'époque pour venir surligner les infos importantes. Et bien là, tu vas pouvoir le faire, mais de façon un petit peu plus jolie et esthétique. En deuxième position, je vais te parler des contrastes, en fait. Et je vais vraiment t'inviter à prendre en compte ces fameux contrastes. Alors les contrastes, c'est le fait de rendre lisible et agréable un visuel, un élément de lecture. Donc les contrastes vont te permettre de favoriser une bonne expérience utilisateur, une bonne expérience lecteur. C'est vraiment un point essentiel pour l'image de marque, les contrastes, parce que si tu gères mal tes contrastes, cela peut rendre ton visuel extrêmement pénible à lire. On est dans une espèce de résistance et dans l'effort de lecture. Et l'utilisateur va forcément assimiler ça à une mauvaise expérience. Du coup, ça va fortement nuire à ton image d'entreprise. Je suis certaine que ce que je te dis, ça doit faire écho à une ou plusieurs expériences que tu as toi-même vécues en tant que lectrice, d'un blog, d'un visuel Insta par exemple, ou même d'un livre, peu importe. Voilà, je suis sûre que ce sentiment un petit peu de résistance où tu te forces à lire parce que le message finalement t'intéresse, donc le fond, mais la forme elle est vraiment indigeste. Eh bien, ce qui va en fait créer ce sentiment de grande fluidité ou à l'inverse de grand mal-être, malaise, c'est les contrastes. Donc voici un point à prendre en compte pour éviter de rendre tes visuels indigestes. Donc je vais te parler de deux points sur lesquels je vais t'inviter à te pencher pour éviter de rendre tes visuels indigestes en termes de contraste. Le premier point, ça va être la superposition de couleurs. Donc en fait, dans les règles de contraste, on parle souvent des couleurs claires et des couleurs foncées. Donc déjà, une chose à savoir, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité à lire sur le web un texte foncé qui sera sur un fond clair que l'inverse. Donc exemple, un fond blanc avec un texte écrit en noir ou en gris va être très facilement lisible pour la plupart des lecteurs. Alors qu'à l'inverse, un fond noir où ce sera écrit en blanc va être beaucoup plus indigeste et beaucoup plus complexe à lire pour certains utilisateurs. Donc là, tu dois dire, ah bon, mais sur Instagram, je vois plein de visuels où il y a des fonds plutôt foncés en écriture blanche ou en tout cas très clair. Oui. Mais là-dedans, ce que tu dois retenir, c'est que si tu as un post, par exemple Instagram, dans lequel tu as beaucoup de lectures, donc beaucoup de textes, eh bien, je t'invite vraiment à éviter de mettre un fond qui sera foncé avec un texte qui sera clair. Parce que, à force, on va se faire mal à l'œil et ça va être vraiment pas agréable comme expérience. À l'inverse, si tu as envie de mettre juste un titre, une accroche, une phrase, par exemple, une citation, là, tu peux tout à fait le faire, même si tu as un fond qui est foncé et un texte clair. Parce que la quantité d'informations, elle est moindre. Et du coup, on va pas être dans la résistance pendant longtemps, on va juste lire la phrase, ça va nous suffire et ça va bien aller. Mais en tout cas, toujours dans cette idée de superposition de couleurs, donc il y a ce premier élément clair vis foncé à prendre en compte, mais il y a également un autre élément, c'est que toutes les couleurs ne sont pas bonnes à superposer. Ça m'amène vraiment au deuxième élément sur lequel je veux te sensibiliser vis-à-vis des contrastes, c'est qu'en fait, je vais te préconiser de faire des tests avec ta charte graphique. Si tu as une charte graphique qui est déjà conçue, tu as une palette de couleurs. Normalement, d'ailleurs, cette charte graphique et cette palette de couleurs, elles se constituent en fonction de ces règles de contraste. Moi, par exemple, quand je fais des chartes graphiques pour les sites internet que je crée, je prends toujours en compte ce que je viens de te dire avant. Et j'essaie toujours de créer une palette en me disant, il va me falloir des fonds clair, il va me falloir des fonds foncés, mais il va surtout falloir, lorsque je vais superposer mes couleurs, ça va, en termes de contraste, être fluide, agréable et lisible. Donc je vais créer comme ça cette palette de couleurs autour de ces contraintes et ces éléments-là. Si c'est ton cas et que tu as eu une charte graphique qui a été faite par un professionnel ou une professionnelle du graphisme, du design, dans ce cas, ce que je vais te préconiser, c'est juste de venir faire des tests, en fait, où tu vas venir tester toutes les couleurs de ta palette, les unes après les autres, en regardant quelle couleur match avec quelle couleur, en testant en fond, en texte, et puis tu alternes. Et puis tout de suite, tu vas vite te rendre compte qu'il y a certaines couleurs que tu ne pourras jamais utiliser en fond parce qu'elles sont juste trop saturées, trop agressives, et que quoi que tu mettras comme couleur en texte ou en élément dessus, ça sera agressif pour l'œil ou pas lisible. À l'inverse, tu vas te rendre compte qu'il y a des couleurs qui sont hyper harmonieuses et cohérentes et que tu peux utiliser autant de fois que tu veux avec autant de couleurs que tu veux en texte ou en superposition parce qu'elles sont faciles d'utilité. Donc fais des tests comme ça, classe un petit peu tes couleurs, ça te fera gagner du temps lorsque tu crées tes visuels. Tu vas classer d'un côté les couleurs que tu peux par exemple mettre en fond très facilement parce que toutes les couleurs peuvent être superposées sur celle-ci. Avec du texte, elles seront toujours lisibles et digestes. Et puis à l'inverse, toutes les couleurs, sonnette d'alarme, attention, faut pas faire n'importe quoi avec, et faut surtout éviter de mettre telle et telle couleur en texte, en élément, en superposition. Et tu te les mets de côté, comme ça te servira pour la suite. Si tu n'as pas encore de charte graphique, eh bien dans ce cas-là, je t'invite à créer ta charte graphique ou à la faire créer en pensant à ces règles de contraste que je viens évoquer. et tu verras que ça te fera gagner énormément de temps par la suite. En petit 3, je vais te parler des typographies et je vais te préconiser d'utiliser 3 typographies maximum. Alors, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'à l'heure où tu m'écoutes, tu as déjà des polices d'écriture définies dans ton identité visuelle ? C'est un point qui est vraiment important, la police d'écriture, car si tu ne fixes pas cela en amont, le risque c'est d'avoir un feed Instagram qui ressemble à un patchwork. Je suis certaine que tu as déjà vu ça. Tu arrives sur un feed Instagram et puis en fait, quand tu le regardes en vision haute, c'est-à-dire avec tous les posts, tu vois tous les posts, en fait, il n'y a aucune harmonie, aucune cohérence. Des fois, tu vois des typographies bâtons, la fois d'après plutôt scriptées. Et puis en fait, c'est surtout qu'il n'y a jamais de redondance dans les typographies. Chaque visuel comporte plusieurs typographies différentes à chaque fois et on ne trouve pas de logique, on ne trouve pas d'harmonie, on ne trouve pas de cohérence là-dedans. Donc pour éviter cela, moi je vais te préconiser d'utiliser 3 typographies maximum. Ça veut dire que si tu veux en utiliser que 2, c'est largement possible et suffisant. Il faut que tu trouves en fait dans l'utilisation de tes typographies, que tu en aies 2 ou 3, un équilibre entre celles-ci. Donc elles doivent vraiment venir se valoriser les unes les autres plutôt que de se faire concurrence finalement. Je m'explique, si tu choisis par exemple 3 typographies, eh bien je vais te préconiser d'en avoir une qui soit vraiment une police qu'on appellera de style, qui va être un petit peu ta marque de fabrique. Donc si tu veux une police vraiment stylisée, qui a un style bien particulier et qui se remarque, qui se repère lorsqu'on voit ton visuel, tu peux te dire que ça sera ta typographie de niveau 1. Et ensuite, les deux suivantes, tu vas les choisir pour qu'elles viennent équilibrer celle-ci. Donc si par exemple, ta police numéro 1, elle est manuscrite, donc vraiment écrite à la main, où il y a beaucoup de rondeur, beaucoup de finesse, et elle est plutôt fine, bah tu peux te permettre de prendre une typographie de niveau 2, plutôt droite, qui va s'utiliser aussi bien en majuscule qu'en minuscule, et avec une graisse un petit peu plus importante, puisque ta police de niveau 1, elle est plutôt fine. Et puis tu peux fonctionner à l'inverse. Si ta police de niveau 1, elle est plutôt très épaisse, très lourde, on va dire, et qu'elle est plutôt en police bâton, c'est-à-dire droite et linéaire, eh bien la police numéro 2, tu vas peut-être opter pour quelque chose de plus fin, avec peut-être un style un petit peu plus calligraphié, ou avec des sérifs par exemple. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu gardes toujours cette idée d'équilibre, où ça doit être un petit cocon d'harmonie, et quand on lit, tout matche bien ensemble. Il n'y a rien qui vient voler la vedette à une autre typo. Asnis numéro 4, je vais t'inviter à laisser respirer tes visuels. Alors ça, c'est pour moi l'élément vraiment à prendre en compte sur tout tes visuels. Non pas que ce que je t'ai dit avant, c'est pas le cas, mais je vois énormément de visuels qui sont surchargés d'infos. Et en fait, il y en a tellement qu'on revient dans ce système d'indigestion d'informations visuelles. Et surtout, on n'a pas envie de lire et on voit pas l'essentiel. Donc l'espace vide, il est indispensable et il va vraiment venir aérer et valoriser tous les éléments que tu auras mis sur ton visuel. Il vaut mieux, en fait, si tu as beaucoup de choses à dire, créer un carrousel ou plusieurs publications, plutôt que de venir serrer tous tes éléments en un seul visuel, parce qu'au final, ça va être illisible, donc il y aura une très mauvaise expérience pour ton audience. Et comme on l'a vu au début du podcast, ton audience, en fait, soit elle va se barrer, elle va même pas lire le visuel jusqu'au bout, soit elle va regarder, mais ça va être vraiment très pénible, et elle va assimiler ça à une très mauvaise sensation, émotion et expérience. Et tu ne veux pas que les personnes qui lisent tes visuels ressentent ça. Donc vraiment, l'espace vide, assure-toi. Moi, j'essaie toujours, quand je fais des visuels, de laisser au minimum 1 cm déjà sur les bords. Sur tous les bords, mais c'est le minimum. 1 cm dans les bords haut et bas, dans les bords gauche et droite, c'est le minimum. Sachant que tu peux faire encore plus, mais il faut laisser des espaces vides, des espaces blancs, quitte à dissocier ton visuel en plusieurs visuels pour toujours garder cet esprit un petit peu de respiration, d'aération. Élément numéro 5, ça va être de définir un univers graphique bien à toi. En tant que lecteur, on est souvent attiré par l'ambiance visuelle. Donc moi, j'appelle ça l'emballage cadeau. C'est vraiment ce qui attire notre œil, voilà, en premier lieu, avant d'être attiré par le message. Donc je reprends toujours cet exemple, mais pour moi, il est percutant. C'est le cadeau sous le sapin à Noël. Quand on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir, et ben on voit plein de paquets cadeaux. Et il y en a toujours un ou deux qui vont attirer notre œil en premier. Et pourtant, on ne sait pas ce qu'il contient. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un élément que tu dois prendre en compte. Sur Instagram, c'est pareil. Quand on est sur notre fil d'actualité, sur nos stories, ce qui va attirer notre œil en premier, c'est l'aspect visuel. Donc si tu as un très très bon message, très bon fond, un très bon cadeau, mais que l'emballage cadeau, il n'est pas cohérent, il n'est pas attrayant, en fait, il y a de fortes chances que ton audience, elle passe à côté de ton super message. Donc c'est pour ça que le fait de te définir un univers graphique bien à toi, ça va aussi fidéliser cette audience parce qu'elle va te reconnaître. Ça va faire que dans le temps, tu vas être identifiable grâce à tes couleurs et tes polices d'écriture, comme on l'a vu juste avant, mais pas que. Un univers graphique, ça peut aussi comprendre des dessins, un style d'ambiance que tu poses, ça peut être aussi important. Exemple, chez Bohemia, j'ai un style plutôt bohème, plutôt boho, et j'utilise en fait toute une iconographie autour de ça. Donc chez Bohemia, tu vas retrouver souvent des pampas, cet esprit un petit peu de liberté, parce que pour moi, la liberté de la femme, elle vient dans cette idée-là. Ça peut être des soleils et des étoiles beaux. Et quand tu vois en fait défiler mes posts dans ton fil d'actualité ou dans les stories, je suis sûre que tu me reconnais. Grâce à ça en fait, pas que grâce à mes couleurs et mes typos. Donc sur Canva, si tu connais Canva, tu vas retrouver un tas de graphismes et de dessins qui vont pouvoir venir pimenter et donner un petit peu plus d'identité, je dirais, à ton image d'entreprise. Donc pour cela, je te conseille, afin de rester harmonieuse, d'enregistrer une dizaine de graphismes à intégrer à ton identité. Je vais reprendre pour exemple Bohemia. Moi, j'en ai une dizaine où j'ai plusieurs styles de pampa, de formes, des soleils beaux, des couchers de soleil, des étoiles, des espèces de pots en terre aussi, toujours dans un style beau. Bah, j'ai une dizaine d'éléments comme ça et je vais les utiliser d'un visuel à un autre. Alors attention, il ne faut pas mettre les 10 dans le même graphisme, sinon on retombe dans l'indigeste. Mais tu vas avoir ce petit sac, un petit peu comme le sac de Mary Poppins, de côté. Comme ça, ça t'évite de perdre du temps à chercher toujours ce que tu veux mettre quand tu crées tes visuels. Tu sais que tu as ce petit sac rempli de petits graphismes qui collent à ton identité visuelle. Et puis, tu peux venir les intégrer de temps en temps, en alternant, hein, pour pas toujours utiliser les mêmes, à tes visuels. Comme une sorte d'iconographie qui va te coller à la peau et à la peau de ton entreprise. Et puis pour finir, l'astuce de choc hyper importante, c'est-à-dire que tu auras beau faire tout ce que je te dis avant, les 5 premiers points, ils sont indispensables pour attirer visuellement. Mais en fait, même si tu attires visuellement, donc parce qu'il y a un très bel emballage cadeau, comme on l'a vu, mais que lorsqu'on s'attarde sur ton visuel parce qu'on se dit « Ah, waouh, c'est super joli, j'adore cet univers graphique, hop, je lis le message », eh bien, si le message, il est creux, inexistant, ton audience va partir. Voilà, donc toi, ce que tu veux, c'est un, les attirer, mais deux, les faire rester. Et pourquoi pas les faire s'abonner à ton compte ou même te contacter. Donc là, c'est le sixième point qui va être travailler tes accroches, tes messages. Donc en fait, il s'agit vraiment de ton message, de ton titre de visuel. On peut mettre plusieurs informations sur un visuel, mais on va toujours avoir un message dominant, un titre. Donc pour fixer tes titres, en fait, tu vas pouvoir fonctionner de deux façons. Soit tu vas mettre un titre traditionnel, un titre percutant sur ton sujet. Exemple, tu lances, je sais pas moi, une nouvelle ligne de vêtements. Tu vas mettre un titre « Découvrez ma nouvelle ligne de vêtements ». Bon, bah c'est très clair, c'est très percutant, on sait de quoi tu parles, de ton sujet. Ou tu vas pouvoir, deuxième solution, mettre un titre qui attise la curiosité, mais qui n'est pas forcément... très clair sur le sujet que tu vas traiter. Et je vais te prendre pour exemple le post que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, là, à l'heure où je tourne ce podcast. Lorsque j'ai lancé ma chaîne de podcast, des femmes libres et audacieuses, j'ai fait un post sur mon Instagram. J'aurais pu marquer en gros titre « Nouveau, ma chaîne de podcast ». C'est pas ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un deuxième temps. Le titre, l'accroche, c'était « Ton rendez-vous ». Et en fait, c'était pour attirer la curiosité, en fait, et que les gens se demandent, en fait, que mon audience féminine se dise « Ah bah tiens, c'est quoi ce rendez-vous ?» Et en fait, lui donner envie de regarder un petit peu plus bas, où là, je dévoilais que c'était nouveau, ma chaîne de podcast. Donc en gros, tu peux vraiment t'amuser, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, les deux styles de titre sont bons, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit clair, et que ça attire l'œil. Donc que tu donnes un titre détaillé sur ce que tu vas présenter, comme l'exemple de la ligne de vêtements, ou que tu veuilles juste attiser la curiosité, dans les deux cas, il faut que ça soit percutant. Et pour cela, en fait, il va falloir bien connaître ta cible, en fait, et ses besoins. On en revient toujours à la même chose, c'est super important. Donc si tu n'es pas professionnel du design, tu vas pouvoir quand même, grâce à ces 6 précieux conseils que je viens de te donner, attirer ton attention sur les éléments qui vont être essentiels pour créer un bon visuel qui va impacter et attirer ton audience. Donc pour t'aider dans toutes tes créations de visuels, je te recommande vraiment Canva. Canva, si tu ne connais pas, c'est un outil de création de contenu très puissant où tu peux faire tous tes graphismes, en fait, clairement tous tes visuels. Aujourd'hui pour ton business, c'est un outil qui est gratuit dans une première version, qui te donne accès à pas mal de choses. Et dans une deuxième version, tu vas avoir la version payante qui est de 11 € et quelques par mois. Alors très sincèrement, pour moi, il n'y a même pas à réfléchir, passe sur la version payante si tu crées beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux ou autres. Parce qu'en fait, ça va t'ouvrir toutes les possibilités de Canva et tu vas pouvoir faire un tas de trucs sans rien payer après quoi. Tu vas payer 11 € par mois. Et c'est tout. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse là dans ce podcast. Je te mets également, si ça t'intéresse, le lien d'une formation gratuite que j'ai créée sur Canva. Donc c'est une petite formation qui est hébergée dans un groupe Facebook. Il y a 5 vidéos qui vont t'aider à te familiariser avec Canva et à comprendre un petit peu mieux toutes les possibilités qu'offre cet outil. Pour finir ce podcast, je t'invite vraiment à rester vigilante si tu veux véhiculer une belle et une bonne image d'entreprise sur Insta, crédible, pro et pimpé au max, de te soucier à la fois du message, le fond, le cadeau, et de te focaliser sur la forme, c'est-à-dire l'emballage cadeau. Rappelle-toi toujours cette image des cadeaux sous le sapin à Noël, je suis sûre que ça va t'aider. Si tu aimes ce podcast et que tu aimerais que je traite un sujet en particulier, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Si c'est pas déjà fait, je te mets le lien de mon Insta aussi dans la description, car j'y partage régulièrement des stories dans lesquelles tu peux me partager tes idées et voter pour le sujet du prochain podcast. Donc bah, je serais ravie que tu puisses y répondre pour contribuer à mon choix de prochain podcast. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si mes podcasts t'aident à évoluer dans ton business. Je te dis à très vite dans la joie et la bonne humeur.